Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, la maman d'un petit garçon de 4 ans, et dans la vie, je suis ostéopathe spécialisée en périnatalité. J'ai destiné ma pratique aux femmes et aux enfants, en particulier dans cette période charnière autour de la grossesse, de la naissance et du postpartum, avec une spécificité, permettre au bébé de mieux téter pour mettre en place un allaitement serein en libérant les bébés des tensions qui les empêchent de téter correctement. Ce podcast, je l'ai imaginé pour vous offrir des témoignages variés, des expériences de famille qui ont allaité plus ou moins longtemps et avec plus ou moins de facilité. Ici, vous découvrirez l'allaitement sous toutes ses coutures. Vous pourrez aussi vous informer auprès de professionnels tout spécialisés dans le domaine qui vous apporteront lors d'épisodes experts les informations les plus justes et vous permettront de vous orienter en cas de difficulté. Mon objectif, il est très simple, offrir ces informations à toute mère, famille et tout professionnel qui souhaite se renseigner sur le sujet. Que chacun puisse faire ses choix de façon éclairée et casser les idées reçues qui circulent pour vous rendre l'allaitement plus accessible, plus facile, normal, banal même et ce qu'importe vos envies et votre projet. Ce qui aide ces informations à se diffuser pour que le plus grand nombre puisse en bénéficier et qui permet à Milkshaker de continuer de s'agiter, c'est vous, par vos partages autour de vous, sur les réseaux, vos écoutes, mais aussi vos notes ou étoiles sur les plateformes d'écoute. Alors je vous serais très reconnaissant de prendre une minute pour soutenir ce projet. Et maintenant, place à l'épisode. On va se parler aujourd'hui des baisses de lactation, de cette sensation qu'on a une production lactée qui diminue alors qu'éventuellement tout se passait bien. Parce que dans une boîte à questions que j'ai fait sur les réseaux sociaux il y a très peu de temps, la question des baisses de lactation est revenue à plusieurs reprises et donc je me suis dit que ça méritait de vous faire un petit résumé. Ce sujet, en fait, il a déjà été abordé à plusieurs reprises dans différents épisodes du podcast. Mais bon, je me suis dit que, vu que la question revenait, ça méritait bien un topo. Et au fur et à mesure de ce topo, je vais vous renvoyer plus spécifiquement vers les épisodes qui sont liés, desquels je tire ces informations que je vais vous redonner aujourd'hui, dans lesquels ça a été évoqué. Alors, qu'est-ce qui me laisse penser que ma production de lait baisse? À quoi ça peut être dû et qu'est-ce que je fais pour y remédier? Dans cet épisode, je vous fais un résumé des choses auxquelles vous pouvez penser, ce que vous pouvez mettre en place, qui peut vous accompagner. Quand, durant votre allaitement, alors que vous pensiez que vous aviez des quantités de lait tout à fait suffisantes, vous avez l'impression que votre production diminue, que votre bébé se retrouve éventuellement à prendre moins de poids, etc. Retenez d'ores et déjà que la première chose à faire, c'est évidemment de consulter un spécialiste de l'allaitement, donc une consultante en lactation, pour comprendre ce qui se passait et vous aider à y remédier. Je commencerai par dire ici qu'on ne parlera pas des vrais manques de lait. Ce sujet, il est traité dans les épisodes 60 et 61 avec Aubrey Richardson, qui est IBCLC, qui est spécialiste du sujet et qui vous explique comment on peut véritablement manquer de lait de façon en fait primaire, on appelle ça, par atteinte de la glande mammaire elle-même. Ici, on va plutôt s'intéresser à, ça se passait peut-être plutôt bien, en tout cas, il n'y avait rien d'évident et j'ai la sensation de manquer de lait, que peut-il se passer? Alors déjà, qu'est-ce qui peut me faire penser que ma production de lait baisse? Il y a plusieurs signes qui peuvent éventuellement vous mettre la puce à l'oreille. Alors, un bébé qui s'énerve rapidement au sein quand il tète, on a l'impression que il s'en sort pas, qu'il n'arrive pas à obtenir ce qu'il veut, qu'il semble pas repu après les tétés, qu'il redemande du coup rapidement à téter. Ça peut aussi être, sur une période définie de ce qu'on appelle, les pics de croissance, les périodes de pointe, etc. Il y a des bébés qui ont des rythmes différents des autres. Dans le cadre d'une baisse de lactation, il faut voir si le rythme a changé, en fait. Il ne mouille pas suffisamment ses couches, d'accord ? Votre bébé ne prend éventuellement pas... Et vous pouvez même avoir la sensation d'avoir les seins comme vides. La première chose à retenir, c'est que le lait est produit en fonction de la demande qu'on fait à la glande mammaire. Pour faire très simple, un sein bien stimulé, c'est une bonne production. Un sein mal stimulé ou peu stimulé, c'est une moins bonne production a priori. Tout ça, vous retrouvez dans l'épisode sur les 11 idées reçues sur l'allaitement maternel. Et c'est dans l'épisode 4 avec Émilie Chevalier. Donc, si mes quantités de lait baissent, la première question que je dois me poser, c'est est-ce que mon bébé tète correctement ou pas? Et donc, est-ce qu'il stimule bien mon sein aussi? En fonction de l'âge du bébé et de la prise de poids, il pourrait être envisagé de le compléter. Parfois, c'est nécessaire. Et ça, c'est aux professionnels de l'allaitement d'en juger lors d'une consultation. Alors, sur un démarrage d'allaitement, c'est assez simple à comprendre tout ça. Mais quand cette baisse de lactation, elle intervient plus tard, quelques semaines, voire mois après le démarrage de l'allaitement, c'est la porte ouverte aux avis divers et variés, que ce soit des professionnels comme de l'entourage, du style « tu n'as plus de lait, passe au biberon voilà, » et je vous en passe. Quand les démarrages se sont a priori bien passés et que votre bébé prenait bien du poids, que vous n'aviez pas de douleur, enfin voilà, ça roule, c'est déjà un super point. Mais il arrive que certaines problématiques de succion du bébé puissent être masquées par des lactations finalement abondantes, on va dire. Je vous invite à écouter l'épisode 14 où on parle d'hyperlactation et de réflexe d'éjection fort. On en parle avec Vanessa Letter-Lemaire qui est IBCLC elle aussi. Et ce sont des choses qui peuvent signer elle aussi de soucis de succion du bébé, comme en fait un mécanisme de compensation face à une succion un peu incorrecte. Le corps arrivera à mettre en place des mécanismes de compensation pour pallier à cette succion qui n'est pas super et pour envoyer un peu la sauce à bébé, on va dire. Donc la prise de poids de bébé, super, mais ce n'est pas le seul signe à regarder pour savoir si un bébé tète bien, que ce soit au début de l'allaitement ou par la suite. Car il arrive que ces compensations, bah, du coup, elles ne soient pas efficaces dans la durée et que quelques semaines voire mois après la naissance, vous ayez la sensation de manquer de lait, voire même d'avoir un bébé qui commence à prendre moins de poids et à stagner sur sa courbe. Et si ça n'a pas été vérifié en amont, il sera encore temps évidemment de s'intéresser à la façon dont tète ce bébé et de l'améliorer si problème il y a. Autre chose importante à savoir quand on allaite et qu'on a la sensation de manquer de lait, et qui peut expliquer aussi que les compensations qui se sont mises en place au démarrage ne tiennent pas dans la durée, la lactation, dans un tout premier temps, elle est sur ce qu'on appelle un mode endocrine. Ça veut dire que votre production de lait, elle est régie par le système hormonal et en particulier par la prolactine qui est sécrétée de manière vraiment abondante dans les démarrages d'allaitement. Et puis après quelques semaines, ça passe sur un mode qu'on appelle autocrine où là, c'est la glande mammaire qui s'autorégule, si on veut, qui s'autogère. Et la production va se faire en fonction de la vidange des seins. Donc si la succion de votre bébé était incorrecte avant cette phase-là, peut-être que le système hormonal permettait à votre lactation de s'entretenir, mais que maintenant que le bébé doit faire la majorité du travail seul, eh bien ce n'est plus suffisant. Donc ça, c'est important à retenir parce que ça peut expliquer que les baisses de lactation se produisent finalement plus tard que dans les démarrages où on se dit « bon bah bébé ne tète pas bien, il ne prendra pas de poids » et c'est simple à comprendre. Voilà, parfois c'est un petit peu plus vicieux que ça. Autre chose qui font baisser des lactations en dehors d'un éventuel problème de succion de votre bébé. 1. On va dire la diminution du nombre de tétés. Toujours dans cet esprit de loi de l'offre et de la demande, si votre bébé demande moins qu'il y a moins de tétés, alors la production va en être impactée puisque le sein se met au diapason de la demande de bébé. Donc, pensons aussi aux tétés nocturnes qui sont très souvent importantes pour l'entretien d'une lactation qui est à son apogée. En fait, le mécanisme, la machine est à fond pendant la nuit. Je ne vous dis pas que si votre bébé dort toute la nuit et que vous dormez enfin, votre lactation va nécessairement s'écrouler, loin de là. Mais pour certaines, ça aura une nette influence sur la lactation. Et donc, c'est à prendre en compte. Vous avez un épisode sur l'allaitement et le sommeil pour plus d'infos. C'est le numéro 36 où Audrey, qui est IBCLC, elle aussi est spécialiste dans le sommeil, vient redécrire ses mécanismes et vous explique voilà, à quel point les tétées nocturnes sont en fait normales et dans une grande partie des cas, nécessaire pour bien maintenir une lactation. Mais ça, vraiment, c'est dépendant de chaque maman, de chaque lactation, de chaque couple maman-bébé, et c'est à voir au cas par cas. La conduite de l'allaitement, donc voilà, c'est un point important, ainsi que les bons positionnements du bébé. Si vous avez un bébé qui est positionné n'importe comment et qui, du coup, n'a pas une bonne prise de sein, ça va s'apparenter à un problème de tétée du bébé qui, parfois, peut être réglé simplement par des positionnements. La reprise du travail et la façon dont elle est menée. Donc, une reprise du travail, ça va éventuellement être une diminution du nombre de tétés aussi, éventuellement même, très certainement. Moins de contact avec bébé, la fatigue que ça génère, évidemment. Pour ça, je vous invite à écouter l'épisode 38 avec Catherine Fontenelle, qui est consultante en lactation elle aussi, où l'on traite de la reprise du travail et de comment la mettre en place. Vous avez une super autre ressource, c'est le blog de Véronique Darmanja, lactissima.com, attire d'elle, elle comme les ailes d'un oiseau, qui est dédiée à cela. Pour des témoignages sur ce sujet, vous tapez « reprise du travail » dans les mots-clés sur le site de Milkshaker et vous serez guidé vers des épisodes en rapport. La fatigue, dont on parle déjà dans la reprise du travail, et on sait ô combien la vie, de façon générale, avec un nourrisson peut être fatigante, et même avec un bambin plus tard. Alors, votre niveau d'énergie, c'est évidemment un facteur qui peut influencer votre lactation. L'idée ici, ça va être de prendre soin de soi, de ne jamais oublier une chose très importante, c'est que dans l'avion, en cas de dépressurisation, vous mettez votre masque à oxygène avant de mettre celui de vos enfants. On devrait tout faire pareil dans la vie, c'est plus facile à dire qu'à faire, je vous l'accorde, mais c'est une réalité. Dans la même veine, le stress, l'anxiété, les tensions psychologiques et par extension la dépression du postpartum, qui arrive dans cette période particulière, peuvent avoir un impact sur votre production de lait et aussi sur votre réflexe d'éjection. D'accord, en particulier pour le stress. Donc ce sont des choses à prendre en compte. Voilà, le contexte dans lequel vous évoluez a son mot à dire sur votre lactation. Donc je ne peux que vous engager à prendre soin de vous si jamais vous sentez que vous êtes dans une situation un petit peu compliquée, que ce soit fatigue, stress, anxiété, voilà, et tout ce qu'on met un peu dans ce paquet-là. En cas de maladie maternelle, vous êtes malade, alors évidemment ça va générer de la fatigue à nouveau qui peut être mise en cause. Et peut-être des mises au sein moins fréquentes en conséquence, parce que vous êtes crevé tout simplement. Et parfois aussi, vous avez les traitements qui sont pris dans le cadre de la pathologie que vous avez, qui peuvent avoir un impact sur l'allaitement. Donc là, référez-vous à la personne qui vous suit côté allaitement, vérifiez déjà, souvenez-vous, les compatibilités des traitements avec l'allaitement, et est-ce que ça peut avoir un impact sur votre lactation? Et si c'est le cas, est-ce qu'on peut adapter ce traitement-là? Et sinon, il faudra peut-être relancer la machine après. Ensuite, pensez aux changements hormonaux. Le retour de couche, le retour à des cycles menstruels classiques, une grossesse qui passe par là, une nouvelle grossesse, ou la mise en place de certains types de contraception, ça peut venir affecter aussi votre lactation. Tout ça, c'est des mécanismes hormonaux qui sont détaillés dans l'épisode 55 de Milkshaker avec Julie Faurillon.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vraiment vous détaille tout et en particulier le lien entre la progestérone et la prolactine qui sont en fait deux hormones antagonistes et qui quand l'une son taux s'élève, elle fait en fait baisser l'autre. Donc vous voyez par exemple la grossesse qui est un moment où on est pleine de progestérone, ça fait baisser les taux de prolactine et donc ça peut avoir un impact sur votre lactation. Voilà, je vous invite à écouter cet épisode pour bien comprendre tous ces mécanismes, on y parle aussi de douleurs mammaires au moment du syndrome prémenstruel, etc. qui peuvent exister. Petit point sur les bouts de sein qui peuvent être des alliés dans les démarrages d'allaitement, quand il y a des douleurs, quand il y a un bébé qui a du mal à s'accrocher et qui sont en fait assez facilement proposés dans les maternités. Souvenons-nous qu'ils sont malgré tout le signe que quelque chose ne fonctionne pas normalement et l'écran qu'ils créent entre vous et la succion de votre bébé, ça va avoir tendance à diminuer le transfert de lait et donc à ne pas très bien entretenir votre lactation. Alors, on aura toujours une histoire ou plusieurs d'allaitements entiers qui se passent bien avec un bout de sein, mais c'est une chose à penser si vous êtes sur un allaitement avec des bouts de sein et que vous avez une baisse de lactation, ça fait partie des choses vraiment qui comptent. Donc n'oubliez jamais que la pose de bout de sein doit vous faire consulter un proformé pour essayer de comprendre quelle problématique nous a amené à les poser et est-ce que c'est une problématique qui peut être résolue pour éviter ce genre de désagrément par la suite. Et pour ça, je vous invite à vous référer à l'épisode 75 avec Catherine Fontenelle qui est IBCLC à nouveau. Et l'épisode est dédié à cet accessoire d'allaitement qui est beaucoup utilisé. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on a une baisse de lactation? Eh bien, la première chose à faire, évidemment je ne le répéterai jamais assez dans ces podcasts, c'est qu'on consulte. On consulte quelqu'un qui est formé correctement en allaitement, qui est vraiment spécialisé dans le domaine, ça peut être une consultante en lactation idéalement, ça peut être votre sage-femme si elle est franchement renseignée, quelqu'un qui détient un DU d'allaitement maternel, etc. Voilà, renseignez-vous, faites au bouche à oreille, essayez d'avoir quelqu'un qui connaisse très bien l'allaitement, qui sache tester la succion de votre bébé, parce que là on va vouloir comprendre si votre bébé tète bien. Est-ce qu'il tète correctement? Parce que c'est lui qui stimule. Donc, on veut qu'il soit efficace. Toutes les options pour rebooster la lactation vont évidemment être utiles, mais ce ne sera jamais aussi puissant qu'un bébé qui tète bien. Donc, c'est vraiment important de passer par cette case consultation pour essayer de comprendre qu'est-ce qui a amené à cette problématique de baisse de lactation. Vous pouvez consommer des galactogènes qui viennent favoriser la lactation en attendant votre consultation. Alors, vous avez les tisanes d'allaitement, le fenouil, l'anis, le chardon-marie, le fenugrec, les oléagineux, l'avoine, le riz brun, etc. Donc, c'est des choses qui sont super. Et puis après, il y a aussi d'autres choses qui peuvent vous être prescrites, mais c'est à voir vraiment avec le professionnel de l'allaitement, éventuellement avec votre médecin pour rebooster la machine. Lune de miel avec bébé, évidemment, là il va falloir être en mode un peu collé serré avec lui, du moins tant que c'est possible et que c'est ok pour vous. Donc du pot à pot, beaucoup de tétés, des tétés nocturnes aussi, souvenez-vous que la lactation est à fond la nuit, du portage, bref, de quoi recréer un climat vraiment de proximité qui vous fera produire un max d'ocytocine et qui viendra soutenir votre lactation. Ok, ça c'est hyper important. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le power pumping, qui peut être aussi un bout de solution. Qu'est-ce que c'est? C'est de venir en fait un peu surstimuler la glande mammaire pour qu'elle se rebooste et qu'elle se remette à niveau, on va dire. Comment on fait? Vous mettez votre tire-lait à un endroit où vous allez passer très souvent à côté. Dès que vous passez à côté, vous tirez pendant quoi? 5-10 minutes max, avec un intervalle vraiment quand même minimum de 45 minutes, sinon vous passez votre vie entière sur votre tire-lait. Et un minimum de 10 fois dans la journée. Voilà. Le protocole, il est dispo sur le site de la Lactalink, donc n'hésitez pas à vous y référer si vous avez besoin. Et puis, surtout, reposez-vous. Voilà, n'oubliez pas le facteur fatigue, stress, etc. Prenez soin de vous. Je sais que ce n'est pas facile dans ces cas-là, qu'on a peur éventuellement pour sa lactation en fonction du lien avec l'allaitement qu'on peut entretenir. Mais il faut trouver l'équilibre entre mettre en place des choses et en même temps trouver le repos et ces moments cocooning avec bébé, relancer aussi de la façon la plus naturelle possible et ne pas rajouter du facteur stress sur la situation. Et ça, c'est vrai que l'équilibre n'est pas facile à trouver. Donc, en bref, il faut chercher l'origine de cette baisse de lactation. La plupart du temps, une baisse de lactation peut être totalement transitoire et ne cache pas forcément une grosse problématique. Alors le repos, la lune de miel que vous allez faire avec bébé, etc. feront l'affaire en quelques jours. Mais dans le cas contraire, il va donc falloir consulter et éventuellement rebooster tout ça. Là, dans le cas d'une baisse de lactation, vraiment, écouter des podcasts, c'est super et j'espère que ça vous mettra sur les bonnes pistes. Mais ce n'est pas suffisant. Je pense vraiment que c'est là qu'il faut se faire accompagner parce que l'allaitement est vraiment plein de mécanismes qui sont sur le papier simples à comprendre, mais qui sont régis par plein de facteurs, et en particulier quand un bébé présente un trouble de la succion. Donc je pense que c'est vraiment important de faire le point avec un professionnel s'il vous arrive quelque chose comme ça, parce que si vous êtes après tous les 4 matins en train de rebooster votre lactation, vous allez facilement vous épuiser et ce serait dommage de ne pas avoir mis le doigt sur ce qui en est à l'origine, parce que ça vous permettrait de le régler de façon plus définitive. Okay. Enfin, n'oubliez pas qu'on n'allaite pas au détriment de sa santé mentale. Alors voilà, donc vous consultez et vous reboostez tout ça si vous voulez continuer d'allaiter, bien sûr, et que vous en avez de l'énergie. Écoutez-vous, fuyez les conseils non sollicités et surtout prenez bien soin de vous. Je vous embrasse, j'espère que cet épisode vous aura aidé et je vous ai remis les références de chaque épisode que vous pouvez aller écouter qui sont en lien, parce que ces informations, évidemment, je vous les donne parce que des pros me les ont données au sein des épisodes et je trouvais important de vous les résumer en un seul petit épisode qui vous renvoie vers les informations clés. Dernière chose, avant de se quitter, n'hésitez pas à me faire un retour, que ce soit sur les réseaux, que ce soit par un message via le mail de contact sur Milkshaker, etc. pour me dire si cet épisode vous a aidé et voilà si ce type de format est intéressant pour vous, parce que je pense qu'il y a d'autres thèmes sur lesquels il peut être reproduit. Et puis de façon plus générale, quand vous avez une problématique qui vous embête ou une interrogation, vous avez sur le site de Milkshaker, quand vous êtes dans la rubrique des podcasts, des épisodes du podcast, vous avez en fait une sorte de nuage de mots-clés sur la gauche de votre écran qui va vous permettre en fait de venir cliquer sur certains mots-clés et de voir les épisodes qui ressortent, qui peuvent être en lien avec. Okay, j'essaie au maximum de trier pour que ce soit un peu plus fluide, de retrouver les épisodes dont vous avez besoin. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Vous avez aussi, rappelez-vous, le blog. Donc voilà, n'hésitez pas à consulter le site de Milkshaker qui peut franchement vous être d'une grande aide quand vous avez un sujet qui vous tracasse. Voilà, terminé pour aujourd'hui. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, je te rappelle que tu peux t'abonner, noter sur ta plateforme d'écoute préférée et faire voyager ce podcast pour que l'information circule au maximum. Si tu te rends sur milkshaker.fr, tu trouveras tous les épisodes depuis 2020. Ils sont là pour t'apporter toujours plus d'informations et de transmissions autour de l'allaitement maternel. Si tu préfères lire ou bien que tu es coincé sous un bébé qu'il ne faut pas réveiller, sache que tu y trouveras aussi le blog de Milkshaker. Chaque semaine, c'est un article qui sort pour avoir accès aux informations délivrées par des professionnels du podcast, et plus encore. Enfin, si tu me cherches en tant qu'ostéopathe, pour toi ou pour ton bébé, tu peux me retrouver à Suresnes dans les Hauts-de-Seine au centre IG4U que j'ai créé en 2020, sur mon site internet charlotte-bergerot.fr, et pour la prise de rendez-vous, ça se passe sur Doctolib. On se quitte en musique avec Emma et son titre Blinded, écrit et composé en collaboration avec Nemen. À très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel. Dinner time.